Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Trois semaines après la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola en Ituri et dans les Nord Kivu, la situation continue de rester mitigée. D'un côté, des évolutions positives comme la guérison de certains malades autrefois porteurs d'Ebola et la mobilisation par le gouvernement de la RDC et ses partenaires d'importants moyens financiers, logistiques et matériels pour renforcer la riposte. L'Union européenne a même dépêché en RDC sa commissaire à l'égalité pour s'enquérir de la situation de cette épidémie sur place dans la province de l'Ituri. Et dans la région de Beni, dans la province du Nord Kivu, on voit depuis quelques jours des lieux de rassemblement comme des églises prendre des précautions pour protéger les populations comme le nettoyage des mains, le prélèvement de la température et la distanciation sociale. Cependant, de l'autre côté, certains défis demeurent, notamment la désinformation et la résistance de certains habitants aux interventions des équipes de riposte. Que pensez-vous de cette évolution mitigée de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC 24 jours après sa déclaration officielle? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons dans cette émission en ligne Dr Anissé Kipasa. Il est expert en santé publique et ancien vice-président du comité scientifique de lutte contre Ebola à Kikwit en 1996. Bonsoir Dr Anissé Kipasa. Voilà, on me dit qu'il n'est pas encore là. Aussi en ligne, Pelé Kaswara Taigomo, il est rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Bonsoir, honorable Pelé Kaswara Taigomo.
Bonsoir, messieurs les journalistes, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kopi, ainsi qu'à mes co-débatteurs de ce soir.
Et aussi en ligne, docteur Richard Kitenge, il est incident manager et adjoint du niveau national de la réponse à la 17e épidémie de la maladie à virus d'Ebola en RDC. Bonsoir docteur Richard Kitenge.
Allô?
Bonsoir docteur Richard Kitenge.
Bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, trois semaines après la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola à Ituri, le gouvernement et ses partenaires ont mobilisé d'importants moyens financiers, logistiques et matériels pour renforcer la riposte. Si des progrès sont enregistrés sur le terrain et que de nombreuses communautés affectées par cette épidémie prennent davantage conscience des risques liés à la maladie, cependant, plusieurs défis persistent, notamment la désinformation et la résistance de certains habitants aux interventions des équipes de riposte. Les points sur l'évolution de l'épidémie avec Isaac Remoyopi.
Au début de l'épidémie et même plusieurs jours après sa déclaration officielle, de nombreux décès ont été enregistrés dans certaines structures sanitaires, principalement à Bunia et à Mungwalu, deux principaux foyers de la maladie dans cette province. Selon plusieurs témoignages, certaines familles ont perdu plusieurs proches à l'espace de quelques jours. Cette réalité vécue par les communautés a progressivement contribué à réduire les doutes et la méfiance autour de la maladie. Parallèlement, les gouvernements congolais et ses partenaires, notamment l'OMS, l'UNICEF, la MONUSCO et d'autres organisations humanitaires ont renforcé les moyens de riposte à travers l'acheminement de médicaments, d'équipements de protection et de matériel médical. Plusieurs autorités nationales et responsables des Nations Unies se sont également rendues à Ituri afin d'évaluer la situation et mobiliser davantage de soutien. Des partenaires internationaux dont les États-Unis et l'Union européenne ont annoncé des contributions financières et matérielles pour soutenir la lutte contre l'épidémie. Sur le terrain, plusieurs mesures de prévention ont été mises en œuvre, notamment les renforcements du contrôle sanitaire, la limitation de certains rassemblements et la sensibilisation des populations au respect des mesures barrières. Les gouvernements provinciaux, les leaders communautaires, les responsables religieux et les organisations de la société civile multiplient également les campagnes de sensibilisation pour encourager l'adhésion de la population à la riposte. Malgré ces avancées, plusieurs défis demeurent. Des cas de résistance communautaire et des actes d'hostilité contre les équipes de riposte sont toujours signalés, notamment à Bunia et à Mungwalu. À cela s'ajoute la circulation des fausses informations et les rumeurs sur les réseaux sociaux qui continuent de compliquer les efforts de la lutte contre la maladie. La lutte contre la désinformation et le renforcement de la confiance entre les communautés et les équipes sanitaires figurent désormais parmi les principales priorités des autorités pour contenir durablement cette épidémie. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Merci à vous, Isaac Remoyope. Docteur Richard Kitenge, vous êtes là? Docteur Richard Kitenge, est-ce que vous êtes là? Voilà, apparemment, il n'est plus là. Honorable Pelle Kaswara Taïgomo, vous êtes là?
Je suis là, monsieur le journaliste.
Voilà, je rappelle que vous êtes rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Itouri. Vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous constatez en ce qui concerne l'évolution de cette épidémie 24 jours après sa déclaration officielle? Commençons d'abord par la prise en charge des malades. Est-ce que les choses ont évolué par rapport à cet aspect?
Merci, monsieur le journaliste. C'est une occasion pour nous encore de présenter nos condoléances à plusieurs familles qui continuent à voir leurs membres de famille décédés suite à cette maladie épidémique à virus Ebola. Il est à noter que depuis qu'on a décrété l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Itouri, nous voyons qu'il y a une forte mobilisation du gouvernement. Une chose est peu partenaire, c'est une chose à préciser parce que on se voit que si bien que la maladie, l'épidémie a surpris des gens et le gouvernement se mobilise. Vraiment, on est en train de voir. S'agissant de la prise en charge, oui, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, on va arriver à la prise de charge, cette prise de charge. Rappelons que...
Honorable Pelé. J'avoue que j'ai du mal à vous écouter. Je dois fournir beaucoup d'efforts. Vous avez activé les modes main libre?
Là, vous me suivez?
Voilà. Allez-y.
Je disais qu'on va arriver à la question de prise en charge. Rappelons qu'aujourd'hui, la zone de santé de Rwampara enregistre 147 cas confirmés. Donc, 14 personnels soignants, parmi les 14 personnels soignants, il y a 4 médecins et 10 infirmiers, avec plus de 1383 cas contacts. Lorsqu'on voit les centres de transit de l'hôpital général de Bounia, il y a au moins 16 lits pour les cas confirmés, et ces 16 lits sont occupés au moins à plus de 70%, donc on a 11 malades qui sont suivis à l'hôpital général de Bounia. Il y a plus de 21 lits pour les cas suspects qu'on a arrangés à l'hôpital général de Bounia. Au moins 15 lits sont occupés. Vous comprendrez que les taux de participation à la maladie continuent toujours. Il est vrai qu'il y a la forte mobilisation. La prise en charge continue à poser des petits problèmes parce qu'il y a plus de malades. À telle enseigne que les personnels soignants sont complètement démotivés. Comme vous l'avez suivi avec le journaliste Isaac le disait, le personnel continue à faire l'objet de certains mauvais traitements. Il y a une forte résistance, quand bien même certaines personnes commencent à comprendre, la conscience revient petit à petit, mais il se pose un sérieux problème de la résistance de la population qui jusqu'à présent, certains continuent à croire que la maladie Ebola ce n'est pas une réalité et que c'est une coopération de certaines personnes pour faire de l'argent. Il se pose encore un problème de médicaments.
Justement, par rapport, s'il faut parler de la résistance, honorable Pellier, s'il faut parler de la résistance, comment vous expliquez cette résistance des habitants en dépit de tous les travaux qui ont été faits pour la sensibilisation?
Moi, je pense que le travail doit être fait encore. Il faut continuer à sensibiliser davantage. Il ne doit pas s'arrêter. Certes, il y a quand même des avancées significatives. Il y a des avancées à ce qui concerne cette résistance, mais elle perdure. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas à la maladie Ebola. Mais compte tenu de ses conséquences dévastatrices, certaines personnes commencent à prendre conscience alors que la majorité de la population n'a pas encore compris.
Et quelle est la situation?
Voilà le problème, c'est plus qu'un problème.
Quelle est la situation des prestataires de santé, hein? Parce que on sait que au début, n'est-ce pas, de l'épidémie, c'est beaucoup plus ces prestataires de santé qui étaient exposés et affectés par la maladie. Est-ce que avec l'évolution des choses, ils sont maintenant équipés d'outils nécessaires, n'est-ce pas, pour travailler en toute sécurité?
Oui, c'est pas partout. Par exemple, dans le CT, le centre de transit de Rwampara, certainement, il y en a. et à Mouan aussi, nous avons des bons échos, des échos favorables à cette question-là. D'une manière générale, quand même, en ce qui concerne la protection des personnels et les garanties. Mais à Niakoundé, les centres de transit de Niakoundé posent encore problème. Il n'y a pas de médicaments. C'est des informations que nous avons reçues. Donc, il faut encore qu'on puisse travailler sur ces côtés là-bas. Il y a aussi le besoin, on doit renforcer les plateaux techniques. Parce que le laboratoire doit avoir certains éléments qui permettent non seulement que lorsqu'il y a un cas de maladie à Ebola qui arrive, mais qu'on soit en mesure de détecter d'autres maladies comme ça que la prise en charge soit totalement complète. Et encore à ce niveau-là, il faut multiplier les structures de traitement. Parce que quand vous voyez la province de l'Ituri, quand on prend seulement la zone de santé de Bounia et de Rwampara, elle est vaste. Si on ajoute la zone de santé de Niakoundé, qui est aussi affectée, donc avec les centres de traitement, à Bounia seulement, il y en a à peu près 4. Il y a à Rwampara, il y a à l'hôpital général, il y a les centres médicaux évangéliques. Ça, ce sont les 3 centres de traitement Ebola qui sont reconnus. Et à cela s'ajoutent 2 autres centres de transit. Donc, il y a les cliniques Elikia et il y a un autre centre qui est encore en construction. Donc, ce qui fait que le besoin de multiplier les centres et puis les structures de traitement, le besoin est assez grand. Il faut aussi peut-être humaniser parce qu'à un moment donné, il n'y a que des bâches. On construit seulement des bâches. Vous savez, ce n'est pas un bon traitement psychologique parce qu'il faut quand même le cadre qui accueille le malade soit un cadre qui est humanisant de telle sorte que le premier traitement soit le traitement psychologique.
Alors, maintenant,
on peut noter qu'à ces jours, Allô?
Allez-y.
Je disais que le taux de mortalité est toujours à 50%, ce qui fait que les défis demeurent encore. Mais néanmoins, on doit noter qu'avec la mobilisation du gouvernement et ses partenaires, notamment le MSF, OMS, je vis aujourd'hui avec UNICEF aussi pour l'aspect communication, ils se sont mobilisés et nous espérons qu'avec la petite prise de conscience qui arrive, les choses pourront peut-être s'améliorer. Il se pose encore un autre problème aussi de l'enterrement digne et sécurisé. Là encore, pose un problème, c'est toujours la résistance, parce que les agents qui vont enterrer sont toujours menacés, molestés même, ce qui démotive ces agents-là, et à un moment donné, ils refusent même d'aller enterrer. Il se pose aussi le problème de matériel. Certes, il y a le médicament, mais on doit avoir le véhicule, le moyen de transport. Si je considère pas l'hôpital général de Bounia, le centre qui est installé à l'hôpital général de Bounia, il se pose un problème de transport, la mobilité. Le carburant, on doit manquer de carburant, il n'y a pas suffisamment de véhicules, les ambulances ne sont pas encore là. Alors c'est aussi un autre défi auquel il faut rapidement répondre.
Et lorsque vous dites tout ça, honorable Pele Kaswara Taïgomo, ça nous inquiète parce que il y a chaque jour des annonces selon lesquelles le gouvernement congolais ainsi que ses partenaires mobilisent d'importants moyens financiers, logistiques, matériels pour renforcer la riposte. Mais entre-temps, il y a des localités comme Niakoundé, vous dites qu'il n'y a pas de médicaments. Vous dites qu'il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas assez de véhicules et tout ça, donc il y a des problèmes logistiques aussi. Comment vous expliquez que, alors qu'on nous annonce qu'il y a quand même des choses qui se font sur le terrain, mais vous qui êtes sur le terrain, vous ne voyez pas ces choses-là?
Bon, vous savez, il y a annoncé, c'est une chose, arriver à concrétiser sur le terrain, c'est un autre problème. Ce qui peut être le temps que ça peut prendre, et dans l'entretien, le besoin est réel sur le terrain. Parce que si je suis en contact avec ceux qui sont à l'hôpital général, on vous dit, des fois, il n'y a même pas de carburant, ou ils utilisent leur propre carburant, ils utilisent le véhicule qu'il y avait, il n'y a pas d'autre véhicule plus. Alors que les besoins, dans ce qui concerne ces moyens de transport, ces moyens logistiques, il est au-delà de ce qu'on attendait, au-delà de ce qu'on attend. Ce qui fait que ces besoins-là, il est encore réel. Nous espérons peut-être le gouvernement, avec ses partenaires, pour aussi répondre à ces besoins-là. Certes, il y a la mobilisation, mais arriver à concrétiser sur le terrain, il se pose un problème. Je prends le cas de la zone de santé de Niakoundé. Ils ont le bus, le véhicule, l'ambulance, ils en avaient deux. Or, ce sont les deux qui doivent assurer toute la zone de santé qui est assez vaste. Lorsqu'il y a des cas, vous voyez, vous allez voir que deux véhicules, ce n'est pas suffisant pour des distances de plus de 50 km par exemple, alors que nous sommes dans une période d'urgence. Ça, s'il y a des véhicules, mais ces véhicules ne sont pas encore arrivés sur terrain.
Merci, docteur Anissé qui passe là. Est-ce que vous êtes là? Docteur.
Je suis là, mais je ne vous entends pas.
Ok.
Je suis là.
Mais entre-temps, vous avez allumé votre...
Je suis là. Ah, ok.
Est-ce que vous m'entendez? Docteur qui passe à...
Je suis là.
Vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Voilà. Voilà, oui. Je rappelle que vous êtes expert. D'abord, bonsoir. Hein, on n'a pas eu l'occasion de saluer au début de l'émission.
Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à l'honorable et bonsoir au confrère Kitenge.
Merci. Vous êtes expert en santé publique et ancien vice-président du comité scientifique des luttes contre Ebola à Kikwit en 1996. Comment vous comprenez cette évolution mitigée, n'est-ce pas, de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC, 24 jours après sa déclaration officielle?
Bon, je ne sais pas si c'est tôt de faire l'évaluation, mais sincèrement, mitigé, je me réserverai de dire mitigé par rapport à l'expérience que nous avions eue voici 30 ans. J'ai dit, les efforts sont vraiment concentrés sur le terrain. Le gouvernement de la République et le partenaire dans l'OMS, les États-Unis maintenant, je crois qu'il y a un effort qui est en train de se faire. Mais par rapport aux défis, par rapport aux obstacles, j'ai bien suivi le honorable quand il a parlé. L'un des grands problèmes, en dehors de problèmes logistiques, parce qu'on est en train de déployer, on continue à déployer, j'ai même vu tout à l'heure, là, dans les CITREP, la déclaration du directeur général de l'OMS, le docteur Tedros. On est en train de déployer des moyens, la logistique. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très positif et très favorable. Mais le grand problème, l'un des grands défis qui reste, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est l'infodémie ou la rumeur, comme le dit l'OMS, l'infodémie. La rumeur est vraiment dévastatrice par rapport aux efforts de la riposte. Mais mitigé, je me réserverai parce que vous avez posé tout à l'heure la question là à l'honorable, et ça, c'est inquiétant par rapport à tant de ce qu'on dit. Donc je dis qu'il y a vraiment un effort. Je crois qu'il faut voir les choses de façon proactive et optimiste.
Voilà, vous parlez de ces défis qu'est l'infodémie, cette rumeur, n'est-ce pas, qui pousse certains habitants à continuer à ne pas croire à la présence, n'est-ce pas, de cette menace. On rappelle que vous avez été impliqué dans la riposte de l'épidémie à virus Ebola à Kikwit en 1996. Vous avez fait certainement face à ces mêmes problèmes, l'infodémie. Comment vous avez pu relever ces défis à Kikwit?
Déjà, en 1995, quand nous nous sommes retrouvés devant ces problèmes-là, je voudrais vous rappeler, n'oubliez jamais, que ce soit Covid, Monkeypox, que ce soit Ebola, retenez la grande caractéristique. Ce sont des maladies avec un effet ou avec un impact culturel, social très important. Alors, pour contrôler la rumeur, nous avions, aujourd'hui, on parle de l'infodémie, à cette époque-là déjà, avec le professeur Mouyembe, nous avons pensé au bureau des rumeurs. Dans le cadre, je crois, le docteur Mouvoudi l'a dit aussi la semaine passée, le docteur Mwamba l'a dit aussi la semaine passée, c'est la surveillance épidémiologique à base communautaire. Nous faisons la riposte actuellement en Ituri, nous devons la faire avec la population. C'est-à-dire, nous devons intégrer la population dans ce que nous appelons la surveillance épidémiologique à base communautaire. Ça nous a aidé à contrôler la rumeur. Vous imaginez?
Allô, docteur Alice Kipasa? Voilà, apparemment un problème de connexion. Docteur Richard Kitenge, est-ce qu'il est là? Docteur Richard Kitenge, est-ce que vous êtes là?
Bonsoir, je suis là.
Bonsoir, docteur Richard Kitenge. Vous êtes incident manager adjoint de niveau national de la réponse à la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC. Vous qui êtes aussi sur le terrain, est-ce qu'on peut parler, lorsqu'on suit les uns les autres, peut-on parler d'une évolution mitigée? Docteur, autour de vous, il y a beaucoup de bruit. Hein. Est-ce qu'il y a possibilité de vous éloigner un peu? Docteur Richard Kitenge.
Un instant, je suis en train de débarrasser le bruit qu'il y a. Est-ce que là, ça va?
Oui, là, ça va. Alors, j'ai vous demandé, au vu de tout ce qu'on voit sur le terrain et tout ce qu'on entend, n'est-ce pas, est-ce qu'on peut parler d'une évolution mitigée de l'épidémie de la maladie à virus Ebola 24 jours après sa déclaration officielle?
Je ne pense pas que ça soit une évolution mitigeuse, d'autant plus que nous qui sommes sur terrain, nous sommes des experts. Et donc, nous avons la matière entre nos mains, nous avons les stratégies et nous avons l'accompagnement et du gouvernement et des partenaires. Donc, nous ne pouvons pas dire une évolution mitigée, mais la mise en œuvre de la réponse, et surtout une réponse de cette ampleur, prend quelques temps pour s'installer. Voilà. Donc à ce niveau ici, c'est une mise en œuvre. Nous sommes en train de nous installer, de déployer les nécessaires, et nous déployons les nécessaires en même temps nous ripostons. Et donc ce n'est pas une évolution mitigée, mais c'est juste une mise en œuvre que nous sommes en train de faire. Et dans très peu de temps, ça sera de l'envol.
Voilà, donc on est dans un processus. Docteur, est-ce qu'on peut parler quand même, quand vous voyez par rapport aux chiffres, les choses, comment ça évolue, est-ce qu'on peut parler d'une évolution positive?
Il faut être optimiste, parce que vous avez les grands experts qui sont là. Les chiffres ne peuvent pas nous orienter, nous stresser, parce que l'épidémie évolue. Nous commençons par une épidémie au niveau de la communauté, parce que la maladie a commencé dans les hôpitaux, dans les endroits miniers, et puis les gens se sont cachés dans leur domicile, ils ont fait des maladies, ils ont généré des contacts. Donc ce que nous sommes en train de faire à l'heure actuelle, c'est augmenter la capacité d'isolement, de prise en charge. Et cette augmentation des capacités de prise en charge va nous permettre de ratisser l'âge en identifiant tous les suspects qui vont devoir arriver dans les formations sanitaires, comme le collègue l'a dit tout à l'heure. La surveillance à base communautaire qui est en train d'être mise en place va nous permettre d'identifier, et avec l'aide des relais communautaires qui sont suffisamment payés aujourd'hui, avec le nouveau barème que nous avons mis en place, pour que tout celui qui va répondre à la définition, que ce soit au niveau clinique, que ce soit au niveau de la communauté, soit orienté directement vers une structure de prise en charge, un centre de traitement. Et c'est seulement à ce niveau-là que nous allons devoir faire un prélèvement analysé. Nous avons déjà déployé des laboratoires sur le terrain. Les résultats, nous les obtenons à moins de 24 heures. Ça veut dire que tout celui qui répond à la définition de quoi, qui arrive au centre de traitement, sera prélevé, analysé. S'il est négatif, on le considère comme non-cas, on va l'orienter vers une structure non-Ebola, et s'il est positif, on le transfère vers la structure de prise en charge des cas confirmés, et ça nous permet de le prendre en charge. Donc, les chiffres ne vont pas nous effrayer, mais lorsque nous intensifions les activités, nous augmentons toujours les chiffres que vous allez voir, parce que on va ratisser large, on aura l'augmentation des chiffres, et après, à un moment donné, vous allez trouver que la baisse sera une baisse de non-retour jusqu'à la déclaration de l'épidémie, de la fin de l'épidémie.
Voilà, docteur Richard Kitenge, comment vous expliquez cette décision portant suspension des vols commerciaux à destination et en provenance des Bounia? C'est une décision qui vient d'être prise. Tout de suite, ça semble, n'est-ce pas, confirmer les allégations selon lesquelles la maladie ne fait que prendre de l'ampleur.
Une décision politique ne peut pas être contredite par les techniciens. Moi, je suis technicien et je ne peux pas me permettre à interpréter une décision au niveau politique.
Mais est-ce que
ça a été décidé, donc nous ne pouvons que nous plier.
Oui, oui, mais vous pliez, vous conformez, mais est-ce que vous vous conformez à cela? Mais est-ce que vous pensez que c'était opportun de prendre une telle décision aujourd'hui avec la manière dont les choses évoluent?
Bon, ma réponse à l'heure actuelle ne va rien modifier parce que la décision est déjà prise et nous ne pouvons que faire avec.
Voilà, mais aussi, il y a cette déclaration du secrétaire général de l'OMS, la semaine dernière, qui a affirmé que la maladie progresse et que nous courons derrière cette maladie. Comment vous réagissez à cette déclaration du secrétaire général de l'OMS?
Bon, courir derrière la maladie, par rapport à l'installation, vous savez que l'installation d'une riposte prend de la place. L'épidémie a commencé. Une intervention ne vient que après avoir constaté qu'il y a deux cas. Donc il n'y a pas d'intervention qui commence pour une épidémie de façon anticipée. Il n'y en a pas. Donc c'est toujours quand il y a une maladie que nous venons installer et nous nous installons, nous courons et nous dévançons la maladie parce que nous travaillons en même temps dans la réponse et dans la préparation des zones non affectées. C'est-à-dire que dès lors que nous nous installons à ripostant et à préparer les zones non affectées, je contredirai cette façon de voir pour dire que nous courons derrière. Non. Nous sommes en train de nous installer et nous allons anticiper à préparer des zones qui ne sont pas touchées et donc ça sera une ceinture de sécurité. Les zones sont affectées. Nous allons riposter pour arrêter la maladie. Les zones qui ne sont pas affectées, nous allons les préparer à ne pas avoir de cas. Et même s'ils ont des cas, que les cas ne soient pas débordants. Donc, c'est sa déclaration. Mais de façon technique, je ne pense pas que ce soit une bonne déclaration.
Merci. Nous vous regardons encore dans cette émission, docteur Richard Kitenge. Honorable Pélé Kassouara Taïgomon, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Bonsoir la radio de la paix. C'est Bakir Mananga depuis la ville province de Kinshasa. 24 jours après la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola RDC, il est vrai que la situation demeure contrastée. Des avancées importantes sont enregistrées grâce à la guérison de certains patients et à la forte mobilisation du gouvernement et de ses partenaires. Toutefois, la lutte contre l'épidémie reste confrontée à des défis majeurs. La de certaines communautés envers les équipes de riposte et le refus de respecter certaines mesures sanitaires continuent de freiner les efforts déployés sur le terrain. Cette situation montre que la victoire contre Ebola ne dépend pas uniquement des moyens médicaux et financiers, mais aussi de l'adhésion de la population, la sensibilisation, la responsabilité citoyenne et la collaboration avec les autorités sanitaires demeurent essentielles pour contenir et vaincre définitivement cette épidémie. Les combats contre Ebola est une responsabilité collective qui exige vigilance, solidarité et discipline.
Honorable Pélé Kassouara Taïgomo, votre réaction?
J'ai eu du mal, je dois avouer que j'ai eu du mal à tout retenir de cette question. Néanmoins, j'ai retenu que la lutte contre l'Ebola doit être une responsabilité citoyenne. C'est vrai. La population doit comprendre que l'Ebola, c'est une épidémie, c'est une réalité, et que l'Ebola, elle est dévastatrice, elle tue. Et là, c'est tout le monde qui doit sensibiliser. Donc, je pense que à côté de cette la riposte moi je pense que le volet communication, sensibilisation doit être vraiment doit occuper une position, une place qui pèse, hein, parce que on doit vraiment sensibiliser la population pour qu'elle comprenne que c'est une réalité et que ce n'est pas des maladies qu'on a créées. C'est là où je vais rejoindre le docteur Alice lorsqu'il parlait des rumeurs. Certes, il y a des rumeurs parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de la maladie Ebola. Ce sont des médecins qui tuent des gens, c'est une fausse maladie, ce sont des multinationaux qui veulent avoir de l'argent. Alors, peut-être cette rumeur, la rumeur à une faible proportion peut se justifier par une mauvaise communication. Parce qu'à un moment donné, au début, on a fait croire à la population que Ebola n'a pas de médicaments. Parce que quand on a dit qu'on n'a pas de médicaments, et la population commence à chercher ces médicaments elle-même. Ils commencent à recourir à certains médicaments traditionnels. Lorsque, avec la magie des réseaux sociaux, on vous dit tel produit est en train de soigner et tout le monde court vers ces produits-là, c'est aussi des rumeurs. Ce qui est une réalité. Nous voulons peut-être dire, et moi, ce qui concerne le docteur Richard, certes, nous devons être animés par l'esprit de l'opportunisme. Optimisme, voulais-je dire. On doit être optimiste devant ces cas parce que l'Ebola, c'est une épidémie, certes. L'Ebola tue, c'est vrai, mais il y a quand même des guérisons. Pour autant qu'il y a une guérison, parce que on doit avoir l'espoir de vie que malgré qu'on est atteint de l'Ebola, on peut obtenir la guérison. C'est à ce niveau-là, on doit être surarmé psychologiquement, que le malade sache que on est atteint d'Ebola. L'Ebola, ce n'est pas une maladie honteuse où on doit avoir honte de dire que je suis atteint par l'Ebola. Mais lorsque on est atteint par cette maladie-là, on manifeste les symptômes. Il faut immédiatement aller à l'hôpital parce que si vrai qu'il n'y a pas le vaccin ou en attendant qu'on puisse découvrir le vaccin contre l'Ebola, néanmoins les traitements symptomatiques existent et ça peut sauver plusieurs vies humaines.
Alors,
la fermeture.
Oui, vous voulez dire quelque chose par rapport à la fermeture de l'aéroport, oui? Allez-y.
Je pense que la fermeture de l'aéroport, aussi bien que c'est une décision politique, elle est bonne, elle est salutaire. Parce que avec le délai d'incubation de la maladie, le dispositif qui est mis à l'aéroport, c'est juste le lavage des mains et on prend la température. Alors que la période d'incubation est de 2 jours à 21 jours. On peut être déjà atteint par la maladie, mais la maladie ne se manifeste pas. On passe par l'aéroport, on prélève la température elle est normale. On lave les mains, c'est bien beau et on monte à l'avion, on descend, etc. 21 jours après, la maladie se déclare, se manifeste chez le voyageur. Donc moi je pense que pour couper la chaîne de transmission, ce n'est pas une façon de s'alarmer non plus, mais il valait la peine. Tel est le cas des zones l'épicentre des maladies, notamment à Mungwalu. Mais jusqu'à présent, les gens quittent Mungwalu viennent à Bunia. Jusqu'à présent, les gens quittent Mungwalu pour aller dans les territoires de Mahagi, les territoires de Haru, qui jusque-là sont quand même épargnés de cette épidémie. Mais plus les gens voyagent vers ces milieux-là, se déplacent pour ces milieux-là, certainement, il y aura encore des cas qui vont se déclarer dans ces territoires.
Merci. Merci, docteur Anissé Kipata. Vous êtes là?
Oui. Oui, je suis là.
Voilà, on vous a perdu lorsque vous parliez, n'est-ce pas, de la surveillance épidémiologique à base communautaire, hein, mais vous allez continuer avec dans votre analyse, mais écoute d'abord la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Colosie. Vous allez réagir par rapport à ça et puis continuer avec votre analyse.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. La résurgence répétitive de l'épidémie d'Ebola en RDC doit interpeller profondément les autorités, les partenaires et toute la communauté scientifique. Malgré les efforts de riposte, les guérisons enregistrées et l'appui international, il devient évident que le pays ne peut pas continuer à fonctionner uniquement dans l'urgence à chaque nouvelle flambée. Il est temps d'investir sérieusement dans la construction de laboratoires modernes. le renforcement des centres de recherche scientifique et la formation des chercheurs congolais capables d'anticiper, détecter et contenir rapidement ces épidémies. La RDC dispose d'immenses ressources naturelles, mais la protection de la vie humaine doit aussi devenir une priorité stratégique, car à force de voir Ebola revenir presque régulièrement, le pays ne peut plus se limiter à gérer les conséquences. Il faut désormais agir sur les causes, la prévention et l'autonomie scientifique nationale.
Docteur Anissé Kipasa.
Merci pour notre ami du Katanga. Je crois que il a raison, mais je voudrais qu'il reste proactif. J'ai dit ceci. Actuellement, avec l'expérience des maladies émergentes et réémergentes que nous avons connues dans notre pays, notre système de surveillance épidémiologique, avec tout ce que l'OMS a fait pour la formation, pour l'installation de tous ces centres de surveillance épidémiologique, je vous jure, notre pays est parmi les pays les plus outillés actuellement par rapport à ce que nous étions dans le passé. Il n'y a pas à trop s'alarmer. Ce n'est pas simplement d'aller construire des laboratoires partout, mais déjà avec ce que les bureaux centraux, les zones de santé font au niveau opérationnel, à partir de centres de santé, des bureaux centraux, les réunions de surveillance épidémiologique. Dès qu'il y a détection d'un cas, Kinshasa, au niveau de... Je prends aujourd'hui, il a dit le gouvernement doit investir. Oui, le gouvernement a investi, c'est pourquoi nous avons l'Institut national de santé publique avec Dr Mwamba et sa branche fonctionnelle armée, là, les CUS, où il y a les confrères Kitenge. Ça signifie que nous avons vraiment progressé dans la surveillance épidémiologique des maladies. Non seulement pour la surveillance épidémiologique, mais aussi pour tout ce qu'il y a comme urgence et catastrophe au Congo. Nous avons dans chaque zone de santé ce que nous appelons le plan de contingence. Donc, dès qu'il y a un événement insolite qui arrive dans un milieu, que ce soit les urgences, dernièrement, nous avons géré ici les déplacements de nos frères du Kasaï. Nous avons même interdit de parler des Camerounais. C'était péjoratif. Nous avons dit, nos frères se sont déplacés, ils sont venus à Kikwit. Nous avons géré ces déplacements massifs avec, grâce à notre plan de contingence. Le plan de contingence est national, il existe partout. Donc ce sont les efforts du gouvernement. Et quand il parle de défis, les grands défis, en tant que scientifiques, comme il a dit, nous devons nous investir. Les défis que nous avons, j'avais voulu dire ça vers le mot de la fin, les défis que nous avons, c'est l'évolution spatiale des épidémies ou des maladies émergentes et réémergentes. C'est-à-dire, regardez, tout au début, c'était des milieux ruraux qui étaient. C'est une question que je soumets à la réflexion de tout le monde, confrère Kitenge et tous les autres scientifiques qui nous suivent. Il faut réfléchir, il y a un défi sur l'évolution spatiale des épidémies, surtout des épidémies d'Ebola. C'était surtout des milieux ruraux, mais maintenant, de plus en plus, ce sont des milieux urbains et ça devient difficile à les contrôler dans les milieux urbains à cause, comme l'a dit l'honorable tout à l'heure, de la mobilité des populations. Et voilà, il y a une décision qui tombe, comme l'a dit le confrère Kitenge, et je serais très très mal placé pour parler de la décision, mais en effet,
la décision portant fermeture de l'aéroport.
Oui, j'ai dit ceci. Sur le plan épidémiologique, je dirais, c'est une prévention par rapport à ce que nous appelons en épidémiologie, la proximité de risque. Regardez, Monsieur Trump se trouve à des milliers de kilomètres et lui, il prend presque la même mesure. Mais nous qui sommes dans le même milieu, dans le même quartier, c'est vrai, l'avantage c'est éviter la proximité des risques. Est-ce qu'à Kikwit nous sommes en danger? Oui. Est-ce que à Matadi on est en danger? Oui. Par rapport à la période d'incubation, 21 jours, quelqu'un peut quitter Bounia et la maladie vient se déclencher. Donc, il y a quelque chose de positif. Et à cause de la proximité des risques que nous appelons. À Bounia, là où se trouve mon confrère Richard, ils sont en alerte rouge. Moi, à Kikwit, nous sommes en alerte jaune. À Matadi, ils sont en alerte jaune. Donc, dans tout le pays, nous sommes en alerte. C'est pourquoi j'ai dit, le seul désavantage, c'est ceci. Quand on ferme l'aéroport comme ça, les gens vont utiliser des voies informelles pour sortir. Et cela complique la traçabilité des cas. Je crois que c'est un peu dans ce sens-là que Richard se réserve de donner l'avis technique. Mais, sincèrement, chaque fois qu'on prend une mesure, il faudra voir aussi les mesures d'accompagnement. L'un des grands problèmes avec la fermeture de l'aéroport, c'est les gens vont sortir quand même. La proximité des risques sera, facilitée. Parce qu'ils vont utiliser des voies informelles. Honorable l'a dit. Il a dit, les gens continuent à se déplacer. À l'époque, quand on avait Ebola à Kikwit, je crois le gouverneur de Kinshasa, c'était Frère Mongolodias, il a carrément barré la route de Kinshasa, des gens qui venaient de Kikwit pour Kinshasa. Mais ça résout pas le problème. C'est vrai. Ça peut aider par rapport à la proximité des risques. C'est vrai. C'est bon. Mais il faudra aussi prendre des mesures pour que les gens n'utilisent pas de voies informelles pour atteindre les grandes villes où là ils veulent aller.
Merci.
Voilà un peu, mais je reviens sur ce que notre ami de Lubumbashi a dit, et Richard l'a dit, Honorable l'a dit pour la rumeur. Nous avions répété avec Okapi les 5 règles d'or pour la prévention de la contamination.
On va les faire à la fin de la mission.
Merci.
Merci beaucoup. Docteur Richard Kitenge, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Jacques Bifunga, Malumalu depuis Kisangani, province de la Tchopo. À mon avis, l'évolution mitigée de l'épidémie d'Ebola s'explique autant par des facteurs médicaux que sociologiques. Les progrès observés montrent que la riposte fonctionne. Les malades guérissent, les moyens sont mobilisés et les communautés commencent à adopter des mesures de prévention. Cependant, la résistance de certains habitants trouve son origine souvent dans la méfiance envers les autorités, les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux et certaines pratiques tirées comme les contacts physiques et funéraires ou des visites aux malades. Par exemple, lorsqu'une famille cache un malade par peur de stigmatisation, les risques de contamination augmentent. La solution n'est pas seulement sanitaire, elle est aussi sociale. Et il faut renforcer la sensibilisation en langue locale à ce sujet.
Docteur Richard Kitenge, votre réaction? Docteur Richard Kitenge, est-ce que vous êtes
oui,
là?
Oui, je suis là. Vous me suivez?
Oui, on vous suit. Allez-y.
D'accord. Je pense que je n'ai pas assez de commentaires à faire à l'analyse de l'auditeur. Son raisonnement est logique, mais le seul mot que je n'aime pas que ça soit dit, c'est lorsqu'on dit une évolution mitigée. Non. On ne peut pas dire à ce stade que l'évolution est mitigée parce que nous avons élaboré un plan de réponse, nous avons mis en place un plan opérationnel et une stratégie opérationnelle est en train d'être implémentée. Donc, nous suivons à la lettre toutes les stratégies pour pouvoir gérer cette épidémie. Et nous savons qu'il y a de rumeurs, oui. Il y a de l'infodémie, comme nous avons l'habitude de le dire, oui, mais il faudra déjà savoir que les armes pour contraindre ces rumeurs sont aussi avec nous, parce que nous avons des cellules qui analysent les infodémies qui sont partagées. Nous avons des équipes qui sont là pour répondre. Et ici, la meilleure réponse, c'est le résultat que nous présentons à la population, c'est l'implication de tous les niveaux, commençant par le plus bas niveau, excusez-moi le terme, nous parlons de plus bas niveau, c'est là où nous sommes, la population, et l'implication des autorités, des honorables députés qui sont avec nous,
Et donc il faut l'implication de tout le monde. Alors on est en train d'étendre vers la fin de l'émission, docteur Richard Kitenge, vous allez conclure. Hein. Alors à cette allure, quand on voit comment la maladie est en train d'évoluer, est-ce qu'on peut espérer, comme l'a affirmé le ministre de la Santé publique Roger Kamba, que l'épidémie pourrait être maîtrisée dans un délai de 4 à 6 mois? Ça sera votre conclusion?
Son Excellence, il prend les informations de nous qui sommes techniciens sur le terrain, et donc ce qu'il dit, c'est ce qui vient de notre part, il n'y a pas de commentaire à faire dessus, ça veut dire que nous nous engageons. Lorsque nous disons 4 à 6 mois, c'est qu'une épidémie se gère sur un délai, et nous avons pratiquement 42 jours, un mois et demi, pour une période post que nous observons avec une surveillance intense et à n'ayant les zéro cas. Donc, le timing qui est donné, c'est un timing normal de la gestion de l'épidémie.
Merci beaucoup, docteur Richard Kitenge. Honorable Pélé Kassouara Taïgomo, votre mot de la fin.
Mot de la fin, je vais dire que à la population de croire que l'Ebola c'est une maladie réelle et que l'Ebola tue, de ne pas se fier aux rumeurs, de ne pas se fier au traitement des tradis praticiens de soins rudimentaires, parce que quand on se livre à ces traitements-là, ça peut endommager des reins ou certains organes vitaux. D'aller à l'hôpital dès qu'on a le premier symptôme.
Merci.
Au gouvernement encore de faire mieux, parce que lorsqu'on parle de l'évolution mitigée, le docteur a voulu nous appeler à l'optimisme, certes, mais la période de la mobilisation du gouvernement et ses partenaires, l'installation, il y a les résultats que la population apprécie.
Merci,
à ce niveau-là où on parle.
Merci, docteur. Docteur Anissé Kipassa, vous allez aussi conclure hein, avec les 5 règles. Allez-y.
Les 5 règles d'or, exactement comme les 5 doigts de la main. Le premier, ne cédez pas à la panique et ne vous fiez pas aux rumeurs. Suivez et appliquez strictement les règles et recommandations qui viennent des autorités politico-administratives, de médecins, des experts. Ça, c'est le premier doigt. Le deuxième doigt, en cette période, c'est l'hygiène, comme on l'a dit. Éviter les salutations, les accolades, laver régulièrement les mains avec savon ou cendre.
Troisième règle.
Troisième règle d'or, le troisième doigt. Éviter de manipuler, toucher, dépiécer ou disséquer, préparer et manger tout gibier frais, mort de lui-même. Ramasser en forêt, vous dites. C'est une chance. Non, c'est une malchance. Prudence avec ce qu'on connaît, les singes, les chauves-souris. Quatre, en cette période, nous disons, éviter tout contact direct non protégé avec le cas suspect, avec les malades ou les humeurs corporelles. Dans les humeurs corporelles,
nous disons,
les urines, les vomites, la sueur, les larmes, les selles. Et pour le marié, attention, même le sperme. Prévenir les centres de santé et dispenser les plus proches, y compris les agents de santé ou les relais communautaires, dès que vous avez un cas suspect. 5. Nous disons, cinquième doigt, en cas de convalescence, éviter les contacts sexuels pendant au moins quelques mois.
Nous avons compris,
éviter
docteur.
Tout contact.
Nous avons compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis, tous ceux qui sont intervenus dans cette émission, les intervenants, les invités ainsi que les auditeurs. Merci aussi à toute l'équipe, n'est-ce pas, qui m'a aidé à produire cette émission.